Dossier. Salon, terre de pastoralisme. Salon et le pastoralisme, c'est une grande histoire d'amour qui a débuté il y a plusieurs millénaires déjà. Un lien fort qui se traduit aujourd'hui d'un point de vue environnemental à travers des paysages façonnés par les troupeaux, par une activité économique conséquente sur la ville qui compte une dizaine d'éleveurs, et par une culture provençale bien présente, comme en témoigne chaque année l'engouement des Salonnais pour la grande fête de la transhumance. Le pastoralisme, une richesse ancestrale. Première trace au néolithique, vestige gallo-romain de bergerie, le pastoralisme est au cœur de l'histoire de Salon de Provence et de la Croix. Pendant des siècles, jusqu'à la révolution induite par l'irrigation permise par le canal de Craponne, l'élevage ovin est la principale ressource de ce terroir, que ce soit pour la viande, la laine, le cuir. Notre ville en garde la trace à chaque coin de rue. Rue de la Teinture, rue de la Grande Carrère, fontaine du Puy du Mouton. À chaque détour de ces espaces naturels, Boris, ferme, Lavogne. De nombreux documents conservés au sein des archives municipales, dont une lettre patente du roi Louis XII, attestent de l'importance de cette activité, des conflits qu'elle fait naître et de la nécessité de la réguler. Au Moyen Âge, Salon est une place centrale du commerce de bétail, via notamment la foire de la Saint-Martin, à la mi-novembre, qui dure 3 jours, ou celle de la Saint-Laurent, au mois d'août. On retrouve dès la Renaissance des traces d'une transhumance pratiquée à grande échelle vers les Alpes du Nord. Le pastoralisme gardera, à travers les siècles, une place prépondérante, en dépit des troubles révolutionnaires, en dépit de l'essor du commerce des huiles et du savon, au XIXe siècle, avant d'entamer un lent déclin tout au long du XXe siècle. Le pastoralisme aura façonné l'histoire de notre ville. Les anciens se souviennent du temps où les moutons partaient vers les alpages à pied, puis en train, avant les bétalières d'aujourd'hui, des foires aux ovins et aux sonnailles. Aujourd'hui, l'école des bergers du Merle, nos éleveurs, perpétue sur notre belle terre de Croix une histoire plus que millénaire et une richesse bien vivante. Transhumance, de Salon jusqu'aux Alpes. Après 11 000 années d'existence, la transhumance a été inscrite en décembre dernier au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Une candidature portée depuis plusieurs années par la Maison de la Transhumance, association dont le siège est à Salon de Provence et qui a pour vocation de défendre la pratique de la transhumance et de la faire connaître au plus grand nombre. Il est loin, le temps où, à chaque fin de printemps, plus de 150 000 ovins des Bouches-du-Rhône rejoignaient les Alpes par les drailles, puis en train pour y passer l'été. Désormais, c'est en camion que les troupeaux rejoignent les alpages. Les pratiques ont bien évolué, et la Maison de la Transhumance porte une vision moderne de ses savoir-faire, mettant largement en avant la grande capacité d'adaptation de la profession, éleveurs et bergers. Une dizaine d'éleveurs salonnais participent chaque année à cette estive. Des éleveurs qui seront mis à l'honneur, tout comme la transhumance, à l'occasion de la Semaine Provençale, une fête désormais bien ancrée dans le paysage salonnais. Programme détaillé dans le supplément « Rendez-vous à Salon ». Quand le château de Lampéry se transforme en bergerie. Pour célébrer cette prestigieuse distinction, et pour diffuser la connaissance de cette pratique ancestrale au plus grand nombre, la ville de Salon de Provence s'associe à la Maison de la Transhumance. Le samedi 11 mai, une transhumance XXL réunissant plus de 1 500 animaux, moutons, chèvres du Rove, ânes, chevaux, défilera sur les cours de la ville, au son des galoubets et tambourins des groupes régionaux en costume. Le même jour, le château de Lampéry deviendra une bergerie à ciel ouvert, avec des troupeaux de moutons, des ateliers de conférences, des visites guidées, des expositions et des démonstrations de tonte. En savoir plus sur la transhumance. La maison de la transhumance a créé, au domaine du Merle, un centre de ressources. Unique en France, il regroupe des ouvrages spécialisés, des revues ou des périodiques, des rapports et des archives de recherche, des documents iconographiques. Des trésors dont la quantité ne cesse de croître au fil des programmes de recherche, des colloques ou des expositions, et qui est mis gratuitement à la disposition de la communauté scientifique, aux acteurs de l'élevage pastoral comme au grand public. Avis aux amateurs. Sur rendez-vous au 04 90 17 06 68. Théodore Jourdan, magicien de la lumière. La semaine provençale est l'occasion de découvrir ou redécouvrir au château de Lampérie l'œuvre de Théodore Jourdan, ce maître du pastoralisme. Sous la chaleur des étés provençaux ou le souffle glacé du Mistral, Théodore Jourdan nous conte la vie pastorale au XIXe siècle, où se mêle splendeur des paysages arides, moutons de crocs, bergers et chevrières, perpétuant les traditions ancestrales. Il a légué à sa ville natale, Salon de Provence, de nombreux tableaux et dessins exposés au château de Lampérie. Domaine du Merle, entre savoir-faire historique et innovation. Saviez-vous que Salon de Provence abrite un haut lieu du pastoralisme français? Le domaine du Merle, situé dans la plaine de la Croix, est à la fois le siège de la maison de la transhumance, le plus ancien centre de formation de bergers transhumants de France et un centre d'expérimentation accueillant scientifiques et chercheurs sur la thématique de la gestion de l'eau. Un site atypique à découvrir, à la croisée de pratiques ancestrales et d'innovations techniques. L'histoire du domaine du Merle est un peu singulière. Tout commence en 1920, quand la veuve d'un banquier marseillais féru d'agriculture et d'élevage, Félix Abraham, décide de léguer ce grand domaine composé de prairies irriguées et de coussouls à Sup Agro Montpellier, avec une condition: que ce site devienne un lieu central d'expérimentation et de formation. Une exigence qui sera respectée avec la création, en 1930, d'une école de bergers transhumants. C'est après la Seconde Guerre mondiale et la modernisation de l'élevage ovin que la formation se développe. Aujourd'hui encore, le domaine poursuit ses missions de recherche, de formation et d'expérimentation. L'Institut Agro Montpellier s'est donné pour objectif d'en faire une véritable plateforme pédagogique et scientifique dans les domaines de la gestion de l'eau, de la production de foin de croc AOP et de l'élevage ovin transhumant. Et les résultats sont au rendez-vous. Le Merle est une référence nationale et européenne en agropastoralisme, au sein duquel se côtoient scientifiques, bergers, étudiants, touristes et grand public, notamment à l'occasion du Salon des agricultures de Provence, un événement régional dont l'objectif est de faire découvrir le monde agricole au plus grand nombre. Berger transhumant, un métier qui séduit. D'ici 2030, la moitié des bergers et des éleveurs ovins vont partir à la retraite. Pour assurer leur remplacement, le domaine du Merle forme chaque année une quinzaine de bergers transhumants, une formation axée quasi essentiellement sur la pratique. Pendant un an, les étudiants apprennent les bases du métier, les soins, l'alimentation, la gestion du troupeau dans les différents milieux et dans des contextes de prédation, la conduite de chiens, la tonte. Un métier passion qui séduit de plus en plus de personnes en reconversion professionnelle, à la recherche de quiétude, sensibles à l'environnement et au bien-être animal. Salon de Provence, membre des communes pastorales. Le sylvopastoralisme est l'un des points mis en avant par l'Association nationale des communes pastorales, dont Salon de Provence fait partie. Cette adhésion se traduit sur le terrain par le soutien aux éleveurs, la promotion du pastoralisme auprès des jeunes, notamment à travers le projet « Et si je devenais pastre ?», la préservation de la biodiversité des zones pastorales et les aménagements nécessaires à l'accueil des bergers et de leurs troupeaux. Pastoralisme utile, des moutons pour prévenir les incendies. Il n'est pas impossible qu'au printemps, à l'occasion d'une balade dans le massif du Tallagar, vous croisiez des brebis en train de paître. Pendant plusieurs semaines, elles sont installées sur des parcelles dites DFCI, défense de forêt contre les incendies, dans les zones de coupe de bois. Leur rôle, se nourrir des végétaux et contribuer ainsi à limiter la propagation des feux en cas d'incendie. Depuis quelques années, la ville de Salon-de-Provence, en partenariat avec l'ONF et la métropole Aix-Marseille, a fait le choix du sylvopastoralisme, un mode de gestion gagnant-gagnant qui permet aux troupeaux de profiter des ressources végétales issues des coupes d'éclaircies et à la ville d'avoir recours à un coupe-feu naturel. En plus de réduire les combustibles et par conséquent les départs de feu et de faciliter l'accès des pompiers au massif, cette solution a une autre vertu. En effet, le passage des animaux permet également d'espacer l'entretien mécanique de nos espaces naturels. Au lieu de broyer mécaniquement tous les ans la végétation, les engins n'interviennent que tous les 3 ans. Du côté des éleveurs, au-delà de leur permettre de trouver des ressources alimentaires supplémentaires pour leurs bêtes, ils se félicitent de contribuer par leur action à réduire le risque d'incendie. Au total, pour la ville de Salon, 172 hectares d'espace naturel sont mis à la disposition de 2 éleveurs. Portrait : Émilie Proust-Imbert, éleveuse passionnée et passionnante. Émilie Proust-Imbert, 40 ans, mariée, un enfant de 7 ans, éleveuse d'ovins, propriétaire de 500 brebis, née à Salon de Provence. Émilie Proust fait partie de la dizaine d'éleveurs installés à Salon de Provence. Passionnée, indépendante, dévouée à ses brebis et à son métier, elle nous livre son quotidien entre coussoules de la croix sèche et pâturage des Alpes. Racontez-nous votre enfance. Je suis né à Salon de Provence et j'ai grandi au domaine de Giguerie à Lançon, puis à Cornillon, au milieu des brebis, car mon père est également éleveur d'ovins, la première génération de la famille. Mon grand-père était directeur d'école et ma grand-mère mère au foyer. Pas du tout dans le domaine agricole. Ils ont eu un peu de mal avec le choix de métier de mon père. De mon côté, j'avoue que les choses ont été plus simples. Vous avez étudié à Salon. Pour des raisons pratiques, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au lycée à Pélissane, car mes grands-parents y habitaient, et comme mes parents étaient peu disponibles, c'était plus simple ainsi. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire éleveuse d'ovins. Mais mes parents tenaient à ce que j'aie une formation générale au cas où je renonce à travailler avec les brebis. Force est de constater que la filière générale n'était pas du tout adaptée à ce que je voulais faire. Toutefois, je les remercie aujourd'hui de m'avoir poussé, car cela me permet d'avoir des bases scolaires solides. Après le bac, j'ai pu enfin suivre la formation qui me tenait à cœur et obligatoire pour s'installer, et j'ai passé un BPREA, brevet professionnel responsable d'entreprise agricole, en apprentissage à Carmejane. Il y avait seulement 14 semaines de cours par an. Pour moi, c'était le rêve. À l'issue de la formation, vous avez créé votre entreprise. Quand j'ai terminé mon apprentissage chez Christian Trouillard, éleveur à Istres, j'ai voulu m'installer immédiatement. Je me suis alors heurté au parcours du combattant administratif pour créer ma propre exploitation, indépendante de celle de mon père. Finalement, d'un point de vue administratif, le fait d'avoir un parent dans le métier, ce n'est pas facilitateur. S'entraider, c'est interdit. Tenace, j'ai fini par y arriver en janvier 2006. Toutefois, je suis consciente que si mes parents n'avaient pas été là pour m'aider, je ne me serais sans doute jamais installée. Qu'est-ce qui vous a incité à faire ce métier? La passion, c'est inné, je crois. Petite, si on voulait me punir, on m'interdisait d'aller à la bergerie. Toutes les vacances, tous les week-ends, c'était la bergerie. Et je ne le vivais pas du tout comme une contrainte, c'était au contraire un plaisir. J'avais aussi une autre passion, les camions. Voir partir les brebis à la montagne, je trouvais ça magique. Quand nous nous sommes rencontrés avec mon mari, il était négociant en fourrage. Comme nous sommes passionnés tous les deux de bétailière, nous avons décidé de créer ensemble une activité de transport d'animaux vivants. Aujourd'hui, grâce à mes deux activités professionnelles, l'élevage et le transport, je vis mes deux passions. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Tout, aussi bien garder que faire agneler, qu'accompagner les brebis dans les montagnes. Il n'y a pas un jour qui ressemble à un autre. Ici, nous vivons avec les saisons. D'octobre à février, les brebis pâturent dans les prés de la Croix. Tous les jours, j'agrandis les parcs pour leur donner une nouvelle ration journalière. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, mes brebis sortent, et pour leur confort, je les rentre tous les soirs en bergerie. Mi-février, début mars, je déplace le troupeau dans les coussouls de la Croix sèche. Jusqu'à ce que les brebis partent en montagne, c'est moi qui les gère de A à Z. Enfin presque, car pour garder le troupeau, je peux compter sur l'aide de nos deux patous, nos chiens de protection. Ils font leur boulot, mais je suis consciente qu'ils peuvent effrayer parfois les randonneurs ou les automobilistes. Début juin, les brebis partent en estive, à 2000 mètres d'altitude, dans le Champsaur, à Saint-Jean-Saint-Nicolas. Là, je les confie à des bergers salariés. Ce n'est pas évident de me séparer de mes bêtes. De plus, les bergers sont de plus en plus confrontés à la pression des loups, notamment la nuit. L'été dernier, j'ai perdu beaucoup de brebis en montagne. Ici, il y a des loups? Je pense en avoir vu un, ici, à proximité. Un autre a été retrouvé écrasé au bout de mon chemin. L'une de mes brebis est morte un soir. Le lendemain, je l'ai retrouvée totalement dépecée. Nous sommes classés en zone loup, ce n'est pas pour rien. Comment se passe la transhumance? À l'origine, la transhumance se faisait à pied, puis en train. Avec les grèves de 68, les éleveurs n'ont plus utilisé le train. C'est là que la transhumance en camion est apparue. Chez nous, tous les éleveurs font la transhumance en camion. À partir du mois de juin, notre activité de transport des animaux en bétailière débute. Avec mon mari, nous faisons quotidiennement des allers-retours vers les Alpes. Quelles sont les qualités pour être un bon berger? Il faut être passionné, avoir du caractère et savoir s'adapter à toutes les situations de jour comme de nuit. Ce n'est pas tous les jours facile, mais il y a des jours où c'est magique. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans l'élevage? L'élevage, ce n'est pas un métier d'homme. Je participe à la transhumance à Saint-Martin-de-Crau, conduite par une femme éleveuse, Magali Lemercier. Elle a accepté de le faire à condition que les éleveuses de la Croix soient à ses côtés. Cette transhumance, rebaptisée « les bergères en folie », qui réunit toutes les éleveuses de la Croix, nous a surtout permis de créer des liens et une solidarité. L'élevage est-il en souffrance? Vraiment, en tant qu'éleveur, nous n'avons jamais trop souffert des nouveaux régimes alimentaires qui se développent. En revanche, En tant que transporteur, cela devient invivable. Nous nous faisons insulter et traiter d'assassins. Les gens associent les bétalières à l'abattoir, alors que nous amenons les brebis dans les montagnes. En plus, nous sommes particulièrement vigilants au bien-être des animaux, bien conscients que nous avons le patrimoine des éleveurs entre nos mains. Le fait que la transhumance soit inscrite au patrimoine universel de l'UNESCO nous aide à faire de la pédagogie. Nous avons besoin de tous pour faire passer ce message. À Salon, nous nous sentons soutenus par Marilène Bonfillon et par l'équipe municipale qui veille au respect et au maintien de nos activités et traditions. Vous conseillerez à votre fils de faire ce métier ? Il fera ce qu'il veut, mais je serai fier qu'il prenne la suite ou qu'il soit dans l'agriculture. Pour l'instant, il est plutôt passionné par les tracteurs et le machinisme que par les brebis. Votre avis sur la grogne actuelle des agriculteurs ? J'ai participé à la manifestation le 26 janvier dernier. Nous sommes de plus en plus confrontés à des normes imposées contradictoires avec la réalité du terrain et à un travail administratif colossal. C'est la PAC, Politique Agricole Commune, qui est notre patron et détermine notre manière de travailler. En 2020, j'ai décidé de convertir mon exploitation en bio. J'ai fait ce choix car mon système d'exploitation le permettait, et surtout parce que j'avais peur que la nouvelle PAC s'oriente sur le bio. C'est la PAC qui nous fait vivre. On ne vit pas de notre métier, même en travaillant 365 jours par an. Le pastoralisme, en langue nostre. Li Bedig, c'est la brebis d'un an, celle qui a déjà agnelé une fois. La cabre, c'est la chèvre, la plus célèbre étant la cabre des Moussou-Séguin. La caraire, c'est un chemin de transhumance. À Salon, nous avons le chemin de la petite caraire et celui de la grande caraire. La draille, comme la caraire, la draille désigne une voie empruntée par les troupeaux. L'oufluka, bélier castré et apprivoisé, il fait figure de chef pour les brebis. L'oujas, petite bergerie isolée, abri du berger quand il garde ses brebis. La jasse, bergerie. L'oupastre, c'est bien sûr le berger, métier aussi vieux que le néolithique. La route, l'itinéraire de transhumance de la Provence au Piémont. L'isouanaï, ce sont les clochettes attachées au cou des bêtes. L'ensemble donne une tonalité musicale particulière que les bergers, tout comme les brebis, savent reconnaître. Le saviez-vous? Dans la langue provençale, le O final ne se prononce pas. Les noms se terminant par O sont des noms féminins. Li Bedigo, prononcé Bedig, les brebis.